Vatican News, le journal. Il est 13h.
Nouveau visage pour le bureau de presse du Saint-Siège. La nomination de Matteo Bruni vient tout juste d'être officialisée par le Vatican. Plus de détails juste après les titres. Les bateaux de migrants ne doivent plus errer en Méditerranée. Les ministres européens sont réunis autour de ce principe et appellent au volontarisme des pays pour répartir les migrants secourus. Situation compliquée pour les journalistes au Pakistan. Depuis un an, à l'élection du nouveau Premier ministre Imran Khan, la vis se resserre autour de la profession. Nous entendrons les précisions de notre correspondant dans la région. Puis direction la Lune, 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, l'exploit de la mission Apollo n'a jamais été renouvelé. Rencontre en fin de journal avec l'astronome de l'Observatoire du Vatican.
Le journal, Marine Henriot.
Bonjour à tous. Une nouvelle figure à la tête du bureau de presse du Saint-Siège est ce dès lundi prochain. Le nouveau directeur s'appelle Matteo Bruni. L'information vient tout juste d'être officialisée par le Vatican. Adelaide Patrignani, vous nous donnez quelques précisions sur celui qu'on appelle plus communément le porte-parole du Saint-Siège.
Oui Marine, Matteo Bruni est un Italien de 42 ans né en Grande-Bretagne. Il connaît déjà bien la salle de presse du Saint-Siège où il a commencé à travailler il y a tout juste 10 ans. Il s'est d'abord occupé de l'accréditation des journalistes, puis de l'accompagnement de la presse lors des voyages pontificaux hors d'Italie. Jusqu'à présent, il remplissait une mission de coordination. Interrogé par nos services, Matteo Bruni accueille sa nomination comme un honneur et une valorisation des ressources internes. Son prédécesseur, Alessandro Gisotti, n'a pas manqué de l'encourager. « Je suis certain que Matteo Bruni saura diriger au mieux l'extraordinaire équipe du bureau de presse », estime-t-il dans une déclaration. Alessandro Gisotti, qui devient donc directeur éditorial adjoint du Dicaster pour la communication. Il assistera Andrea Tornielli, actuel directeur éditorial. Alessandro Gisotti avait été nommé le 31 décembre dernier directeur ad interim du bureau de presse du Saint-Siège. « Je remercie le Saint-Père de m'avoir offert le privilège d'être son porte-parole pendant une période très intense de son pontificat », souligne-t-il. Il note aussi des relations particulièrement positives avec ses confrères journalistes et rappelle que dans l'Église et pour le Saint-Siège, l'information compte et doit compter toujours plus.
Merci Adelaide Patrignani et ces informations sont à retrouver bien sûr sur notre site internet vaticannews.va. En Tunisie, dans la petite ville touristique de Zarzis, vers la frontière libyenne, des cadavres anonymes arrivent sur la plage. Ce sont ceux d'une embarcation qui a fait naufrage le 1er juillet. Sur 86 migrants, seuls 3 survivants. C'est pour éviter de tels drames et faire cesser l'errance de bateaux de migrants en Méditerranée que les 28 ministres de l'Intérieur européens se retrouvent aujourd'hui à Helsinki. Sous la présidence finlandaise, les 28 vont tenter de lancer une coalition de pays volontaires pour répartir au mieux les migrants secourus. Les précisions de Delphine Allaire.
Éviter les négociations et atermoiements sans fin après chaque sauvetage en mer Méditerranée. Telle est l'ambition des Européens ce jeudi. Réunis en dîner de travail sur la question dès hier soir, les 28 planchent aujourd'hui sur un mécanisme de solidarité basé sur une répartition volontaire des migrants dans 6 ou 7 pays qui se sont déjà manifestés. Ce mécanisme fonctionnerait jusqu'en octobre 2019 et mettrait donc fin au bras de fer systématique entre pays de l'UE. Jusqu'à présent, cette absence de partage du fardeau de l'accueil était l'un des principaux arguments de l'Italie pour justifier entre autres la fermeture de ses ports aux navires secourant des migrants. Maintenant, 2 conditions restent à remplir pour que ce mécanisme de solidarité se concrétise. Réunir suffisamment de pays volontaires et obtenir en contrepartie le feu vert de l'Italie et de Malte pour qu'ils ouvrent leurs ports. Selon des sources européennes, la situation presse car ces dernières semaines ont connu une accélération des traversées due notamment à la moindre activité des gardes-côtes libyens.
Delphine Allaire. Et c'est dans ce contexte que Carola Rackete, la capitaine du navire humanitaire Sea-Watch 3, s'explique aujourd'hui devant les procureurs italiens d'Agrigente en Sicile, dont dépend l'île de Lampedusa. Le 29 juin dernier, Carola Rackete avait été arrêtée pour avoir pénétré dans les eaux territoriales italiennes, et ce, malgré le veto imposé par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. La capitaine allemande avait accosté de force pour faire débarquer 40 migrants secourus par le navire. Ils étaient bloqués à bord de depuis plus de 2 semaines. Une sombre journée hier à Kidal, dans le désert malien. Des manifestants ont brûlé des drapeaux nationaux et ont réclamé l'indépendance de l'Azawad, territoire désertique au nord du Mali. Depuis 2012, le mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA, réclame l'indépendance de la région, une région malienne depuis 1960. Au Pakistan, la situation est critique pour les journalistes. Ils organisaient en début de semaine une journée de protestation contre la censure, de plus en plus forte dans le pays, mais aussi contre la baisse d'achat d'espaces publicitaires de la part du gouvernement, qui tente ainsi de faire pression sur les journaux. Les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
Les médias pakistanais ont toujours été sous surveillance étroite de l'armée, même après la fin de la dictature et le retour de la démocratie en 2008. Mais depuis l'élection du Premier ministre Imran Khan il y a un an, la censure atteint des niveaux sans précédent. Ces derniers mois, 2 chaînes de télévision ont retiré de l'antenne les interviews de 2 figures de l'opposition, celle de l'ancien président Zardari et celle de Mariam Sharif, fille de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif. En mai, le quotidien Dawn, l'un des plus respectés du pays, s'est vu privé de recettes publicitaires de la part du gouvernement. Sa couverture d'un attentat contre un hôtel de luxe dans l'Ouest avait déplu à l'armée. Cette censure illustre le lien étroit entre l'establishment militaire et le pouvoir civil qui veulent réprimer toute dissension. Depuis l'élection d'Imran Khan, plusieurs politiciens d'opposition ont été poursuivis ou emprisonnés pour corruption. Une manière d'éliminer les rivaux du Premier ministre. New Delhi, Emmanuel Derville pour Vatican News.
3 soldats français morts lors d'un accident en Guyane française. Ils réalisaient une opération contre l'orpaillage illégal, une mission qui mobilise chaque jour des centaines de membres des forces de l'ordre. Les militaires ont été victimes d'émanations toxiques au fond d'une galerie. 5 autres soldats ont été hospitalisés à Cayenne. Le mania de l'automobile Carlos Ghosn contre-attaque. Il porte plainte contre les constructeurs japonais Nissan et Mitsubishi, et ce pour rupture abusive de contrat. En novembre 2018, Carlos Ghosn avait été arrêté par la justice japonaise et inculpé pour utilisation de fonds d'entreprise à des fins personnelles. Depuis le début de l'affaire, le PDG dénonce un complot ourdi par Nissan. Il y a 50 ans, en 1969, 3 hommes, 3 astronautes américains étaient à cette heure précise quelque part entre la Terre et la Lune. Le 16 juillet, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins avaient décollé de Cap Canaveral en Floride aux États-Unis à bord d'une fusée Saturn V pour la célèbre mission Apollo 11. 4 jours plus tard, la capsule Columbia se place en orbite autour du satellite naturel de la Terre. Et le 21 juillet, à 2h56 temps universel, Neil Armstrong posait le premier pas sur la Lune. 50 ans plus tard, l'exploit de la mission Apollo n'a jamais été renouvelé. Le père Jean-Baptiste Kikwawa Eluo, jésuite congolais, astronome à l'Observatoire du Vatican à Castel Gandolfo, vers la capitale italienne, revient sur le sens humain de cette avancée astronomique.
C'est en fait ouvrir un peu notre manière de comprendre le monde. Que le monde, en fait, ne se limite pas seulement sur la planète Terre, mais le monde va au-delà de la planète Terre, et donc il y a la Lune, et maintenant on sait qu'il n'y a pas que la Lune, il y a encore beaucoup d'autres objets, et encore. Et c'est cela en fait, du coup, quand on revient à nous-mêmes, nous nous disons que nous ne sommes pas super puissants, parce qu'il y a d'autres corps aussi. Et quelle est finalement à ce moment-là notre vision par rapport à cela? Est-ce que c'est le sens de la responsabilité ou plutôt, comme je disais, sens de domination par rapport à ces éléments-là? Et nous devenons un peu humbles parce que nous avons comme en main quelque chose qui nous dépasse. Et on nous confie en fait la responsabilité de cette chose-là qui nous dépasse. Et donc par nos propres forces très très limitées et parfois par nos philosophies très limitées de division et tout ça, il sera vraiment difficile de prendre comme ça en main cette responsabilité-là. Ça nous demande à entrer dans une très grande humilité.
Voilà l'astronome de l'Observatoire du Vatican, interrogé par Xavier Sartre. L'interview est à retrouver en long format sur notre site internet. Et Buzz Aldrin, le 2e homme à avoir posé les pieds sur la Lune, a fait une apparition surprise hier aux États-Unis. L'ancien astronaute de 89 ans se fait aujourd'hui très discret. Cravate aux couleurs américaines, il est venu saluer une foule enthousiaste dans l'Alabama. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 18h. Je vous souhaite une très belle après-midi.